Donc les nouveaux traitements de l'asthme, je vous rappelle juste la définition de l'asthme que vous connaissez tous, qui a été rappelée dans le GINA. C'est une maladie inflammatoire chronique qui est définie par des signes respiratoires qui surviennent de façon variable dans le temps, à type de dyspnée essentiellement sifflante, de toux, et dont l'intensité varie dans le temps et s'accompagne d'une obstruction bronchique également variable dans le temps. Les progrès qui ont été faits ces dernières années sont essentiellement sur les mécanismes inflammatoires de l'asthme, mais aussi de la BPCO. Et globalement, on sait maintenant qu'il y a deux grands types d'inflammation. Une inflammation de type TH2 qui prédomine dans l'asthme et une inflammation de type TH1 dans la BPCO. Mais enfin, on peut voir les deux types d'inflammation malgré tout dans l'asthme, avec des asthmes qui sont plutôt type TH2 éosinophiliques, où l'éosinophile est au centre de la physiopathologie, mais également des asthmatiques où ce sont les polynucléaires qui sont au centre de l'inflammation. Et ces progrès ont été possibles avec des travaux sur des biopsies bronchiques ou du lavage bronchoalvéolaire. Donc je ne vais pas citer toutes les cellules qui sont impliquées dans l'inflammation, toutes les cytokines qui permettent d'interagir entre les cellules. Tout ce qu'on sait, c'est que le résultat in fine, ça va être des lésions de l'épithélium bronchique, ça va être une hypersécrétion muqueuse, ça va être un œdème bronchique et in fine une bronchoconstriction. L'objectif du traitement, il est bien défini dans GINA, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de GINA que vous connaissez tous, mais c'est simplement de contrôler les symptômes, ça c'est important, d'arriver à avoir des patients avec le minimum de symptômes ou zéro symptôme pour vivre normalement. Et le deuxième objectif, c'est de diminuer le risque d'exacerbation future, mais aussi de dégradation de la fonction respiratoire, d'arriver à une obstruction bronchique irréversible. Et puis avec ça, il faut toujours penser aux effets indésirables des traitements. Ces objectifs ne peuvent être atteints qu'avec un partenariat avec le patient, en définissant des objectifs, en lui expliquant les buts du traitement, les objectifs, etc. Alors, ces dernières années, on a vu finalement des recommandations de traitement par palier. On passe d'un palier à un autre, on monte d'un palier si les choses ne sont pas satisfaisantes, on diminue d'un palier si les choses sont stables et correctes au bout de plusieurs mois. Globalement, on commence par des bêta-2 agonistes à la demande. On introduit très tôt une corticothérapie inhalée puisque c'est une maladie inflammatoire chronique. Puis on va associer une corticothérapie inhalée et des bêta-2 agonistes à longue durée d'action. Éventuellement, dans une étape supplémentaire, des antileucotriènes. Et on a vu arriver sur le marché, je dirais, des traitements beaucoup plus spécifiques, onéreux, en tout cas pour l'asthme allergique, les anti-IgE. Alors, c'est ce qui est résumé sur cette diapositive que vous connaissez tous, de GINA, qui dit qu'il faut d'abord évaluer, ensuite on va mettre en route le traitement, et ensuite évaluer la réponse au traitement, et en fonction de ça, on va pouvoir adapter le traitement, monter ou descendre d'un palier. Les choses un petit peu nouvelles, c'est ce qui est indiqué en encadré à droite, c'est finalement l'idée qu'on peut utiliser moins de médicaments, à savoir à utiliser à la fois un médicament de fond et un médicament, le même médicament, pour contrôler les symptômes. Donc je n'ai pas montré toutes les études qui montrent que c'est faisable, juste celles qui utilisent ici l'association béclamétasone-formotérol comme traitement de fond, mais aussi comme traitement pour soulager les symptômes. Et on s'aperçoit que par rapport à l'utilisation dans le bras contrôle uniquement de salbutamol pour soulager les symptômes, d'utiliser le même traitement pour soulager les symptômes que le traitement de fond, on obtient des résultats identiques, voire mieux, puisqu'on voit une diminution des exacerbations sévères, moins de recours à une corticothérapie systémique par voie orale d'au moins 3 jours, et bien sûr moins d'admission aux urgences ou d'admission ou d'hospitalisation. Donc ça, c'est une solution pour optimiser le traitement. La vraie question qui se pose, c'est celle de l'asthme sévère. Et tout le problème, c'est de définir l'asthme sévère. Parce que finalement, avec les traitements qui sont aujourd'hui disponibles, on arrive franchement à traiter correctement, je dirais, 80 à 90% des patients. Il reste une petite frange de patients qu'on qualifie d'asthme sévère, qu'on a un peu de mal à atteindre les objectifs tels qu'ils ont été fixés par Gina. Alors l'asthme sévère, on peut le définir de plein de façons, soit au niveau des gènes, soit au niveau de l'expression des gènes, soit au niveau histologique, soit au niveau de la fonction respiratoire, mais en pratique, ce qui nous sert à nous tous les jours, c'est finalement les symptômes du patient. Donc comment évaluer ce qu'on appelle un asthme sévère? D'abord, ça peut se faire que de façon rétrospective. Donc il faut se donner un petit peu de temps pour connaître quels sont les symptômes du patient, quelle est la fréquence de ces exacerbations, une fois qu'on a adapté le traitement en suivant les recommandations de Gina. Deuxièmement, c'est quelque chose qui n'est pas statique. À un moment donné, le patient peut être qualifié de sévère et puis 6 mois après, finalement, il n'a aucun signe de sévérité. Donc il faut voir ça dans la durée. Une fois qu'on a observé le patient sous traitement, finalement, ceux qui sont sévères, ce sont les stades 4-5 de Gina, ceux qui ont déjà une dose, je dirais, modérée ou élevée de corticothérapie inhalée associée à un bêta-2 agoniste longue durée d'action et qui sont malgré ça pas contrôlés, qui continuent à avoir des symptômes. Alors, il y a un très beau papier de Le Chung, en fait, c'est les recommandations de l'ERS mixte et de l'ATS pour définir l'asthme sévère. Donc, ça a été publié en 2014 dans l'ERJ. Je conseille tous de le lire. Il y a plein de choses intéressantes dedans. Mais globalement, un asthme sévère, c'est un asthme qui a encore des symptômes ou des symptômes qui ne sont pas bien contrôlés, qui ont des exacerbations sévères fréquentes et elles sont définies, des exacerbations qui nécessitent au moins une hospitalisation ou un séjour en réanimation et qui ont, malgré un traitement, une obstruction bronchique permanente avec un VMS inférieur à 80% de la théorie. Alors, que faire chez ces patients? Il faut optimiser la dose de corticothérapie inhalée et de bêta-2 agoniste longue durée d'action, parce que finalement, la vraie corticorésistance aux corticoïdes inhalés, c'est extrêmement rare. Le plus souvent, c'est un problème de compliance, mais si on augmente les doses, on peut avoir un effet très souvent. Donc, il faut essayer des plus fortes doses. Deuxièmement, les corticoïdes par voie orale, c'est quand même un médicament extrêmement efficace. Le tout, c'est d'utiliser une dose minimale pour avoir le moins d'effets secondaires systémiques possibles. Et il faut prévenir ces effets secondaires, en particulier l'ostéoporose. Ensuite, on peut avoir une démarche thérapeutique sans tenir compte du phénotype de l'asthme, on va y revenir, qui consiste à associer d'autres traitements. La théophine, qui a été utilisée pendant de longues années, mais avec des effets finalement bénéfiques limités. Et puis, on peut utiliser les anticholinergiques, comme le tiotropium. Et donc, ça a été évalué dans une étude, même s'il n'y a pas forcément encore l'autorisation partout dans le monde. Mais clairement, c'est une étude un peu particulière. C'est 2 études parallèles qui ont été conduites. Sur une période, vous voyez, de 48 semaines, avec une période, de screening, de run-out, et ensuite 48 semaines où ils reçoivent le traitement ou du placebo. Et les résultats de cette étude, il y avait trois endpoints identiques. Alors, je vous ai juste montré ici les exacerbations. Eh bien, il y a un bénéfice, bon, qui n'est pas fantastique, mais qui existe en faveur du tiotropium par rapport au placebo sur des asthmes sévères qui n'étaient pas contrôlés, sous une corticothérapie inhalée associée à un bêta-2 agoniste de longue durée d'action. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? En ce qui concerne les corticoïdes inhalés, on peut essayer de réfléchir à des modalités d'administration qui soient plus performantes. C'est vrai que le problème des corticoïdes inhalés qu'on a à notre disposition ici, que ce soit le binézodide ou la beclométasone, c'est que quand on monte les doses, il va y avoir un effet, mais il y aura un passage systémique important. Donc on peut utiliser soit des prodrogues qui sont en train d'arriver sur le marché, qui sont activés uniquement au niveau pulmonaire, et donc il va y avoir moins de passage systémique. Soit on peut avoir des drogues qui vont être, au contraire, une fois qu'elles sont absorbées, elles vont être modifiées et ne plus avoir d'effet systémique. Soit améliorer la délivrance à l'étage bronchique, ou en tout cas au niveau pulmonaire, en jouant sur la taille des particules, etc. Donc ça, c'est une première voie de recherche qui est en train de se développer, améliorer la corticothérapie. Allez. Deuxième solution, c'est d'utiliser un traitement qui se base sur le phénotype de l'asthme et essayer de cerner les patients qui ont par exemple un phénotype type éosinophilique, un asthme allergique. Alors, on a commencé à le faire puisque maintenant les anti-IgE sont disponibles depuis plusieurs années. On dose les IgE. S'ils sont élevés, il y a une indication à donner de l'omalizumab, qui est un anticorps monoclonal anti-IgE, qui a montré son bénéfice chez ce type de patient. Enfin, si on a un asthme avec une intolérance, une sensibilité à l'aspirine, on peut considérer les antinocotriennes, puisque c'est la voie physiopathologique qui est impliquée, et les patients vont bénéficier d'ajouts d'antinocotriennes. Ensuite, on a éventuellement des interventions non pharmacologiques. On en dira deux mots sur la thermoplastie bronchique pour des patients très sélectionnés. Alors, les anti-IgE, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'on a ça à notre disposition depuis quelques années. Donc, clairement, ça bloque, ça se fixe sur les immunoglobulines E. Ça va donc inhiber la fixation sur un certain nombre de cellules, que ce soit les basophiles, les eosinophiles, les macrophages, etc., les cellules dendritiques. Et donc, à ce moment-là, les allergènes ne vont plus pouvoir se fixer sur ces cellules, en particulier sur les eosinophiles, et il n'y aura plus de relargage de médiateurs impliqués dans l'inflammation éosinophilique, et donc plus de bronchoconstriction et plus d'exacerbation. Donc, clairement, les données cliniques sont en faveur de l'utilisation de ce type d'anticorps monoclonal. Ici, vous avez une des dernières méta-analyses de 2014, l'effet sur les exacerbations, donc est clairement en faveur de l'omalizumab par rapport au placebo. Vous avez ici, sur la fonction, un effet plus modeste. Il y a quand même un bénéfice, mais qui n'est pas très important. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on demande aux patients s'ils sont améliorés. Dans la pratique quotidienne, c'est une réalité, ils sont très améliorés le plus souvent par l'omalizumab. Donc il faut le tester, s'ils sont améliorés, ben, on continue, sinon il faut arrêter, parce que le problème de cette molécule, c'est qu'elle est très très chère et qu'on n'a peut-être pas forcément les moyens de la poursuivre s'il n'y a pas d'efficacité, ce n'est pas justifié. Alors qu'est-ce qu'on a comme potentiel nouveau traitement? Donc on a vu le problème des nouveaux corticoïdes, on a vu le problème des anti-IgE, et ce qui se développe et ce qui va arriver sur le marché, clairement, ça va être des inhibiteurs des cytokines. Et là, il y en a quasiment tous les jours des nouvelles qui sont testées et qui sont évaluées. Alors, ça a commencé il y a quelques années. Et il faut se souvenir de cette étude, c'est l'utilisation d'anti-TNF. Anti-TNF, en 2009, cette étude publiée dans l'American Journal, un nombre important de patients, 309 patients qui avaient un asthme sévère persistant. Et il y avait 4 groupes, placebo et puis 3 doses d'anti-TNF. C'est une étude négative. Aucun effet sur le VMS, sur le nombre d'exacerbations, la qualité de vie, etc. Aucune différence sur le nombre d'exacerbations. Et puis là, attention, des effets indésirables, puisque dans cette étude, il y a eu quand même beaucoup de cancers et un décès dans le groupe, tous dans le groupe anti-TNF. Et donc, ça a été la fin des anti-TNF. Plus intéressante, probablement, c'est l'interleukine 5, essayer de cibler l'interleukine 5. Pourquoi? Parce que c'est clairement une cytokine impliquée dans l'asthme éosinophilique, parce qu'on sait qu'il y a une infiltration éosinophilique dans les bronches de ces patients, que d'activer les éosinophiles, ça va provoquer des lésions d'épithélium bronchique, ça va favoriser la contraction du musculus bronchique, augmenter la sécrétion muqueuse, provoquer une vasodilatation et un œdème. Et ce qu'on a montré, c'est que cette infiltration éosinophilique dans les voies aériennes, elle est très corrélée à l'hyperactivité bronchique, aux symptômes et à l'obstruction bronchique. Et l'interleukine 5 a l'intérêt, c'est que c'est vraiment une cytokine clé dans la différenciation de l'éosinophile, dans sa maturation, dans son recrutement et dans son activation. Et on a des données solides qui montrent qu'il y a une augmentation du taux d'IL-5 dans le lavage et dans les bronches des patients asthmatiques, et qu'il y a une corrélation entre le niveau d'IL-5 dans le lavage ou dans les biopsies bronchiques et la sévérité de l'asthme. Et donc, les études cliniques se sont développées. Je ne vais pas toutes les présenter, mais voici une étude qui a été publiée dans le Lancet en 2012. Donc, c'est l'étude de Pavord. Donc, multicentrique, dans plein de pays, double aveugle, contre placebo. Des patients qui étaient inclus parce qu'ils avaient des signes d'inflammation et d'éosinophilie. Et il y a une randomisation avec, là, c'est de l'anti-IL-5 en IV, avec trois doses différentes ou du placebo. Et ils ont aussi été stratifiés sur le fait qu'ils recevaient ou pas une corticothérapie orale. Donc, c'est 13 perfusions sur 4 semaines et les analyses ont été faites en intention de traiter. Et donc, les résultats sont clairs. Vous avez en bleu ici le placebo et puis vous avez le taux d'exacerbation pour les trois posologies d'anti-IL-5. Et clairement, il y a une diminution du nombre d'exacerbations et c'est comparable quelle que soit la dose. Sur les critères de jugement secondaire, à l'évidence, le taux d'éosinophile y baisse avec les anti-IL-5 par rapport au placebo. Et puis, en termes de VEMS et de contrôle de l'asthme, il y a un bénéfice, même si ce n'est pas forcément très, très important et très visible sur ces diapositives. Voilà, par exemple, si on prend un score de qualité de l'asthme, il y a un bénéfice avec l'utilisation de l'anti-IL-5. C'est l'étude DREAM. Ce qui est intéressant, c'est que les effets secondaires sont peu nombreux dans cette étude, en tout cas acceptables par rapport au groupe placebo, en particulier les effets indésirables graves. Alors, il y a eu d'autres études. On va passer rapidement dans le New England, donc celle publiée par Ortega. Toujours pareil, c'est une étude. Alors, cette fois-ci, on a comparé trois groupes, placebo, du mepolizumab par voie IV, 75 mg, ou par voie sous-cutanée. 100 mg, 4 semaines, toutes les 4 semaines pendant 32 semaines. Et le critère principal, c'est les exacerbations. Et il y a des critères secondaires habituels. Alors, probablement illisible là-dessus, mais enfin, sur les critères principaux et les critères secondaires, il y a un bénéfice. Et donc, la conclusion était clairement que le mepolizumab diminue les exacerbations et améliore un certain nombre de marqueurs de contrôle de l'asthme. Enfin, il y a une étude publiée également dans le New England, au même moment, avec une idée de voir si l'adjonction d'un anti-IL-5 pouvait diminuer la dose de corticothérapie orale que recevaient les patients. Donc, les patients étaient stabilisés pendant une période de 3 à 8 semaines. Ensuite, ils recevaient soit le traitement, soit le placebo. Et on évaluait, in fine, tout au long de l'étude, la quantité de corticothérapie orale qu'ils recevaient. Et donc, vous avez ici, au cours du temps, la diminution en pourcentage par rapport à la dose initiale de corticoïdes dans le groupe mepolizumab. Et clairement, il y a une diminution de l'usage de corticoïdes. Et ceci sans qu'il y ait, avec moins même d'exacerbation que dans le groupe placebo. Donc, l'adjonction de cette molécule permet de diminuer la corticothérapie orale avec des patients qui sont contrôlés ou en tout cas mieux contrôlés au niveau de leur asthme. Vous avez ici comment évolue le score de contrôle de l'asthme. Donc, ils sont effectivement mieux contrôlés avec la drogue qu'avec le placebo. Alors, d'autres cytokines sont en cours d'évaluation. On ne va pas tout détailler. Ici, un anti-IL-4, le dupilumab, également impliqué. Donc, le critère pour administrer ce traitement, c'est soit une éosinophilie sanguine supérieure à 300 micromoles, à 300 par millimètre cube, soit plus de 3% d'éosinophiles dans les crachats. Et donc, à nouveau, ce qu'il faisait, c'est qu'il diminuait la corticothérapie inhalée, il regardait ce qui se passait, et on voit clairement que même en diminuant la corticothérapie inhalée, avec le dupilumab, on n'a pas d'augmentation du nombre d'exacerbations, alors que dans le groupe placebo, le nombre d'exacerbations augmente significativement. Autre cytokine qui a été évaluée récemment, c'est le lebrikizumab, donc c'est un anti-IL-13. Et donc là, ils avaient stratifié l'étude suivant le dosage dans le sang de périostine, qui est un marqueur d'inflammation éosinophilique. Et donc, ils ont testé plusieurs posologies. Ce qui est intéressant, c'est que le bénéfice, on le voit surtout chez les patients qui ont cette inflammation éosinophilique. Donc, il y a un taux de périostine dans le sang supérieur à 50 nanogrammes par litre, donc sur la partie gauche de la diapositive. Et si on reprend le papier de Chung et les recommandations de l'ERS et de l'ATS, ils définissent différents phénotypes d'asthme pour lesquels on peut envisager une thérapie ciblée. Donc je vous ai mis ici en rouge celles pour lesquelles on dispose déjà de ces traitements, donc un asthme allergique sévère, comment on peut évaluer qu'il puisse bénéficier d'une thérapeutique ciblée anti-IgE, c'est par l'éosinophilie dans les crachats. On discutera aussi un peu du NO exhalé. Également, l'asthme éosinophilique, pareil, peut bénéficier probablement des anti-IgE. Les patients qui ont des exacerbations fréquentes et qui ont des éosinophiles dans les crachats, probablement peuvent bénéficier aussi d'anti-IgE. Pour les autres, les asthmes neutrophiliques ou les asthmes qui sont cortico-insensibles, quand ça existe, eh bien, il va falloir s'orienter vers d'autres traitements. Ce qui est éventuellement proposé, on va le voir, ce sont les macrolides. La théophylline, je dis que ça avait peu d'effet, et éventuellement rajouter des antileucotriènes. Alors, en ce qui concerne le NO, les biomarqueurs, finalement, qui permettent de phénotyper les asthmes. On a bien sûr, ce qu'on a l'habitude d'utiliser maintenant, c'est les éosinophiles et les IgE. On peut, je crois, aller plus loin. A d'abord été proposé le NO exhalé, avec plein de discussions, on ne va pas rentrer dans le détail, mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que les patients qui ont un taux de NO exhalé élevé vont être des répondeurs à une corticothérapie inhalée. Donc on peut tester soit des patients qui n'ont pas de corticoïdes inhalés, s'ils ont un taux de NO exhalé élevé, leur donner des corticoïdes inhalés, ils vont répondre, soit éventuellement, s'ils ont déjà des corticoïdes inhalés à dose moyenne ou faible, s'ils ont un taux de NO exhalé élevé, augmenter la dose et on va les contrôler, ces patients. Alors, est-ce qu'il y a d'autres marqueurs possibles? Oui, donc il y a ce travail qui vient d'être publié, que je trouve intéressant, qui ont essayé de comparer finalement la capacité de différents marqueurs, ici le NO exhalé, les éosinophiles dans les crachats et le taux de tyrosine dans les urines, pour essayer de voir quel était le biomarqueur finalement le plus performant pour prédire la réponse à une corticothérapie inhalée. Et dans ce travail, c'est clairement le taux d'éosinophiles dans les crachats qui est le plus performant. En ce qui concerne les asthmes non éosinophiliques, neutrophiliques, qu'a-t-on à notre disposition? Eh bien, les macrolides peuvent être utilisés. Alors, les macrolides, vous savez, ce n'est pas pour leur effet antibiotique qu'ils sont utilisés là. Ils sont utilisés pour leur effet anti-inflammatoire. Ils ont beaucoup d'autres effets que des effets antibiotiques, des effets antisécrétoires et antibactériens qui font qu'ils sont utilisés, par exemple, dans la mucoviscidose ou dans les dilatations des bronches non mucoviscidosiques. Mais là, on cherche leur effet anti-inflammatoire sur la production de cytokines en particulier. Alors, il n'y a qu'une étude qui a été faite avec l'azithromycine en 2013 qui essayait d'évaluer l'intérêt de l'azithromycine pour la prévention des exacerbations d'asthme chez les patients asthmatiques sévères. Donc, c'est une étude en double aveugle contre placebo. Le critère principal de jugement, c'est un critère mixte, faire attention, c'était à la fois les exacerbations et la fréquence des infections respiratoires dans les 6 semaines. Alors, globalement, c'est une étude négative. Vous voyez, il n'y a pas de différence en termes de taux sur le critère principal. Simplement, dans cette étude, si on s'intéresse aux asthmatiques qui sont non éosinophiliques, il semble qu'il y a un bénéfice à l'azithromycine. Mais ça demande d'être confirmé. Deuxième possibilité, là, on n'est plus dans les médicaments, on est dans une thérapeutique, la thermoplastie bronchique. Le principe, c'est de diminuer finalement la masse de muscles lisses bronchiques en utilisant une énergie thermique, donc sous endoscopie avec une sonde qui va chauffer et détruire le muscle, ce qui est indiqué. Là, vous avez au milieu la bronche d'un asthmatique avec un épaississement bronchique, et puis après traitement par thermoplastie, on a le calibre qui va augmenter et la masse musculaire qui diminue. Donc, il y a plusieurs études, il y a même une méta-analyse. La seule étude qui me paraît très pertinente, c'est celle où c'est une étude avec contrôlée avec une fausse thermoplastie, donc Sham Control Study. Donc c'est fait par Castro, donc c'est un groupe très particulier qui a une grosse expertise de cette technique. Les patients sont comparables, c'est des patients qui sont sévères, qui ont une corticothérapie inhalée élevée, beaucoup de patients sous corticothérapie orale, etc. Et clairement, il y a une diminution par la suite du nombre d'exacerbations et il y a une amélioration de la qualité de vie. Donc c'est une solution pour ce type de patients quand même très sélectionnés dans des centres qui ont l'expertise de la thermoplastie. En pratique, donc comment on va manager nos patients? D'abord, faire le diagnostic et surtout éliminer un certain nombre de diagnostics qui ne sont pas de l'asthme. On va s'assurer, une fois qu'on a donné le traitement adapté à la sévérité de l'asthme, s'assurer de la compliance, c'est très important. Ensuite, on va évaluer s'il y a ou s'il n'y a pas des comorbidités qui vont permettre ou pas d'utiliser certains traitements. Et ensuite, on va optimiser. Probablement, et à l'avenir de plus en plus, il faudra phénotyper ces asthmes pour pouvoir savoir si c'est des asthmes qui sont plutôt de profil TH2 ou non TH2. Et en fonction de ça, proposer un certain nombre de traitements, comme les anti-IgE, mais d'autres traitements qui vont arriver sur le marché. Alors, pour conclure, on va avoir de nouvelles drogues qui vont arriver. Elles vont cibler des mécanismes très spécifiques. Elles vont être très chères, très très chères. On voit déjà le prix des anti-IgE. Là, ça va être encore plus cher. Ils seront réservés vraiment uniquement aux patients sévères qui ne sont pas contrôlés par les traitements actuels. On a vu qu'on a déjà beaucoup de traitements actuels qui doivent permettre de contrôler l'asthme sévère. Et donc, il va falloir vraiment identifier la population qui relève de ces traitements, à la fois sur leurs caractéristiques cliniques, sans doute sur des biomarqueurs et peut-être sur d'autres outils qui sont en cours de développement. Dernier élément avant de terminer, n'oubliez pas les traitements que sont les aliments. Et on a beaucoup de données qui montrent qu'il y a un certain nombre d'aliments qui sont bénéfiques dans l'asthme. Et donc, quand vous avez vos asthmatiques, essayez un petit peu de savoir ce qu'ils mangent, s'ils mangent suffisamment de fruits, de légumes, et il y a en particulier des fruits et des légumes qui sont bénéfiques dans l'asthme. Et il y a des données assez solides pour cela. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et sûrement également, pensez à leur statut vitaminique D, doser la vitamine D, leur donner de la vitamine D s'ils ont besoin. Je vous remercie.